voit les premiers gros morceaux de glaçons et au loin la banquise toute disloquée, donc le pack de glace quoi.
Communication de la Pastel, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique.
On vient de croiser une baleine, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques, c'est, sans parler des oiseaux, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire quoi.
Enfin, il n'y a rien de plus qui ressemble à un iceberg qu'un autre iceberg. Mais c'est grandiose quoi, de voir tout ça, tous ces manchots là partout, c'est juste incroyable.
Quand même, en voyant ça, ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète.
Je sais pas, je dirais que j'ai la tête vide là, je suis juste super calme, puis super apaisé. Je sais pas, je me sens tout petit et j'ai un peu froid aux mains.
Donc voilà, on est là sur l'île du Lion, et on va aller sur l'île des Pétrels sur laquelle il y a la base de Dumont d'Urville. Bienvenue, on est content de vous voir.
Un été en Antarctique. Nicolas Martin, Yvon Croisier. Sixième épisode. Sur la banquise.
Stop.
Mercredi 12 décembre. Les futurs hivernants prennent leur quartier d'été sur la base du Mont d'Urville. L'heure est aux passations de pouvoir. Ceux qui partent expliquent le fonctionnement de la station à ceux qui les remplacent à leur poste. Il faut entre autres décharger l'astrolabe et les quantités pharaoniques de nourriture et de matériel affrétés pour la saison suivante. Tout le monde s'active, scientifique, technique, administratif et même journaliste. À Dumont d'Urville, le déchargement est collectif, musical et joyeux, sous la houlette de Laurent Père, le nouveau responsable technique.
Allez, on s'envole, qui s'envole, le long du bord de Toul. Et attention ! Et maintenant, l'aile droite va commencer. Salut, c'est moi, Moumou, la reine des mouettes. Qui s'envole, le long du port de Toul. Et attention ! Et maintenant, l'aile gauche va commencer. Salut, c'est moi, Moumou, la reine des mouettes. Qui s'envole, le long du port de Toul. Et attention ! Et maintenant, la patte droite va commencer. Salut, c'est moi, Moumou, la reine des mouettes. Il a pété le pack. Mais il faut voir la chorégraphie, hein. Je vous la ferai ce soir, les gars, si vous voulez. Heineken.
Salut Laurent, comment ça va?
Ça va, en plein travail. C'est un peu, pas la panique, mais c'est un peu la découverte au fur et à mesure de l'avancée de la journée. Donc là, on fait le traînon de boisson, donc on vient de le vider, il va être... Il y en a un deuxième qui va arriver, donc voilà, on est en train de se préparer pour l'hivernage.
Vous êtes en train de rentrer en fait toute la nourriture, toutes les boissons, etc. dans les différents frigidaires, c'est ça ?
Oui, c'est ça, on rentre en fin de compte tout ce qui est nourriture et boissons pour l'hivernage qui va arriver là.
Puis il faut en profiter un peu avant la tempête de demain, non ?
De toute façon, demain, on ne peut pas faire. Et avec la tempête qui s'annonce, impossible de faire de la manute dehors, ça c'est clair.
Ça fait des grosses quantités de jus d'orange.
Jus d'orange, mais il y a aussi jus d'ananas, semblerait-il. Mais on va faire 9 mois d'hivernage, donc il faut quand même prévoir pour que tout le monde ait ce qu'il faut à boire et à manger pour garder le moral des troupes. Hein. Voilà, mais super équipe quand même pour faire ça, parce que tout le monde met la main à la pâte, que ça soit dans l'équipe technique, que ça soit du pâteux.
Pâteux, c'est pour pâtissier.
Pâteux, c'est pour pâtissier, oui. Puis les graisses boulons, les têtes d'ampoule, voilà, tout le monde. Le bout de bois aussi, pareil. On met tous la main à la pâte.
Ça va, vous avez déjà trouvé tous vos surnoms, tous vos petits diminutifs, tous vos petits mots d'amour.
Pas encore tout le monde, mais il semblerait que ça arrive assez rapidement de trouver des surnoms. Donc il y en avait qui n'en avaient pas, et là on a trouvé Dodo, Sani Broyeur, voilà, donc ça, ouais, ça commence à prendre forme. De toute façon, quand on est intégré dans l'équipe, c'est qu'on a son surnom, donc je pense que ouais, Il va vite falloir en trouver pour tout le monde. La moindre erreur est fatale en Antarctique.
Ouais, McBernick, c'est Greg.
Ouais, traîneau dégagé de... Tu peux venir amener le deuxième.
Ouais, on est en train de monter.
Ok, ça marche.
Hélène Larmet, chef de district TA 68. Que va-t-on faire, Hélène ? Racontez-moi tout.
Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, écoute, tu vas assister à un petit bout de la passation entre la 68 et la 69, parce que malgré le passage des clés de la boutique hier, il reste encore quelques informations à se passer. Et là, on doit aborder avec Alain cet après-midi une particularité du rôle du chef de district de Terre Adélie, notamment en hiver, qui est de définir les périmètres de sécurité dans lesquels les équipes vont pouvoir évoluer. Et ça, ça va dépendre directement de la glace. Donc là, en ta présence, on a un milieu qui est ultramaritime, ce qui est finalement un fait qui est assez exceptionnel. Depuis 10 ans à peu près, depuis le vélage du glacier Mertz, les équipes de l'IPEF sont très embêtées pour pouvoir accéder à la station. Chaque année, on retrouvait une situation un peu comme celle que tu vois, c'est-à-dire que, éventuellement pas aussi tôt dans la saison, mais au bout d'un moment, la glace débâclait ici, et ce qui permettait aux bateaux de pouvoir venir accoster et faire les opérations que tu as vues. Depuis le vélage du glacier Mertz, et puis des modifications aussi des conditions extérieures dans la zone, la zone restait englacée pendant toute la campagne d'été, avec toutes les contraintes logistiques du coup que ça peut impliquer et que tu peux imaginer, et que le bateau se retrouvait tanké dans le pack, dans la banquise, à des distances qui peuvent aller de 20 km à je crois qu'ils ont vécu 130 km, et devoir faire du coup toutes les approns en log, les approns en personnel, etc., par hélico. Donc, ouais, c'est vraiment un été, vraiment des étés vraiment spéciaux. Et depuis l'année dernière, coup de bol, on en retrouve effectivement ces conditions maritimes.
Quand même, regarde, là, tu vois, on attend le deuxième traîneau et on a 5 minutes de pause, entre guillemets. Regarde la vue qu'on a, t'as l'astrolabe qui est posé sur un berg, là, qui attend. Donc, c'est de l'émerveillement constante. On s'attendait à, mais je crois que non. C'est...
En fonction de une tempête de neige, directement, t'as les congères qui viennent, puis c'est jamais pareil, quoi. Rien qu'hier, on était en manip gasoil, là, avec Adrien, puis au début, on voyait les nuages, tout qui venait, puis à la fin, t'as le ciel bleu qui arrivait, puis on a le soleil en fin de journée. Franchement, c'est super beau, quoi. Ouais.
Et du coup, niveau sommeil, ça se passe bien malgré le jour polaire?
Ça fait bizarre. Surtout ce matin, je suis levé à 3h30, je me suis dit « Oh merde, j'ai vu le soleil et tout, je suis en retard !» En fait, pas du tout, il était 3h du matin. Ok.
Ouais, mais ça a rattrapé la journée de hier, d'où son surnom, Dodo. Ouais.
Non, bah hier, après mon gasoil, j'étais claqué et tout, du coup, j'ai mangé vite fait, puis après, je vais me coucher direct, quoi.
C'est éprouvant, les conditions physiques, le boulot physique ici, avec le froid, etc.
Bah quand t'as pas l'habitude là, on était bah du coup en bas sur le Lion là, puis le fait de tout en marcher, t'enfoncer dans la neige et tout, ça demande un temps d'adaptation, ouais. Puis franchement c'est assez physique quoi, quand tu traînes un petit peu tous les tuyaux pour tous les ranger, ça fait son poids quand même, bah sinon c'est assez physique ouais.
Voilà donc non, c'est franchement merveilleux là, ce matin j'ai fait un tour de base on a vu les empereurs qui traversaient pour aller se mettre à l'eau, bon bah voilà, t'arrêtes de travailler, non pas parce que... tu veux regarder, mais parce qu'il faut les laisser passer, c'est eux qui sont quand même prioritaires sur la base. Mais bon, voilà, tu t'en prends plein la vue. Ce matin, il y a un manchot qui est tombé amoureux de moi, donc il n'arrêtait pas de me suivre. Donc, je sais pas, il y aura peut-être des nouvelles histoires d'amour qui vont naître sur la banquise.
Donc on est ici sur l'île des Pétrels. Tout ça c'est l'archipel Pointe Géologie. Donc notre ami Jules en 21 janvier 1840 est arrivé ici au rocher du débarquement, la prise de possession de la Terre Adélie, cette si belle histoire d'amour où il donne le nom de son épouse Adèle. Et donc le rocher du débarquement, les îles du Moulin, l'île des Pétrels et celles qui maintenant sont familières autour, les îles du Zodiac, Gouverneur, tout ça, ça fait partie de l'archipel Pointe Géologie. Et tout ça, en fait, va venir être pris dans les glaces au fur et à mesure de la saison. Ce qui est particulier, c'est que c'est de la glace de mer. ce qu'on appelle la banquise glace de mer. Donc ça va venir se former à partir d'une température de moins 1,8 degrés et venir au fur et à mesure s'épaissir. Donc le sel va être chassé vers le haut et on va avoir une banquise qui va se former au fur et à mesure, qui va être de plus en plus épaisse, de plus en plus saine. Donc ce qui arrive classiquement, ce qui nous est arrivé aussi, c'est d'avoir des petites débâcles en début d'hiver. Donc hop, tout ça commence à se former et un coup de vent et ça se rebarre. Donc c'est un phénomène qui se fait vraiment au fur et à mesure. Donc ce que va faire le chef de district, c'est qu'il va au fur et à mesure de l'englacement de cette zone-là, aller faire des trous dans la banquise pour aller vérifier qu'elle est suffisamment épaisse et suffisamment saine. Et en fonction de ces tests-là, aller définir des zones dans lesquelles les personnels peuvent évoluer en toute sécurité. Enfin, en toute sécurité, ça n'existe pas, hein, attention. C'est jamais en toute sécurité, mais en tout cas avec un minimum de garantie. On peut considérer qu'à partir de 20 cm à peu près, on peut avoir une circulation des personnes en toute sécurité. C'est évidemment très différent pour les engins, hein. Ça va dépendre de la répartition des poids, des températures extérieures, ce genre de choses. Mais 20 cm a un bon repère pour la circulation piétonne. Et l'intérêt, c'est en faisant des trous, c'est de regarder aussi à quoi ressemble la carotte de glace que tu vas extraire. Donc soit tu as de la belle glace dure, et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, mais tu peux aussi avoir des textures un petit peu plus mouillées, qu'on va appeler le sorbet mou, ce genre de choses. À ce moment-là, rajouter un petit peu des marges de sécurité. Forcément, il faut être bien chaussé, avoir les mains bien protégées. Là, il fait un temps superbe, donc tu t'en rends pas forcément compte, mais on a quasiment frôlé les moins 30 degrés. Avec le vent, les températures ressenties peuvent atteindre effectivement du moins 50, moins 60 degrés. C'est vraiment des températures qui sont assez difficiles à imaginer, mais contre lesquelles il va falloir se protéger. Bon, en plein cœur de l'hiver, au cours d'une manip, t'as pas un centimètre carré de peau qui dépasse. Sinon, tu te retrouves comme moi avec un centimètre carré de peau brûlé.
Là, sur la tempe, sur le coin de l'œil.
Ouais, 10 minutes de cata, pas plus. On était à la baleine, juste à côté, aller voir un petit peu à quoi ressemblait le bord de la Poligny, voilà. Donc vraiment important, le check des collègues. T'es pas tout seul et tu vérifies effectivement qu'il n'y a rien qui dépasse. En terre Adélie, tu perds un gant, tu perds une main. Je reprends la formule d'Arnaud Quignou, mais elle est bonne. Donc il te faut absolument des gants de rechange aussi dans ton sac. Si jamais tu passais à l'eau, il te faudrait aussi des chaussettes de rechange. Il te faudrait des chaussons de rechange, avoir de quoi changer au moins les étapes supérieures. Les copains seront sympas, te passeront une veste chaude, etc. Mais il faudra que tu puisses leur en passer une autre bien sèche, ce genre de choses. Donc avoir suffisamment de choses sur soi pour se protéger. Donc dans ton sac banquise, tu vas également glisser une petite batterie de secours pour ta radio. C'est pareil, dans des températures très froides pendant l'hiver, les batteries vont prendre très cher, effectivement. Donc diminuer, ça vaut toujours le coup d'avoir une batterie de rechange. Pour toi individuellement aussi, tu vas prendre un bâton de marche. On va le voir en allant sonder un petit peu sur la banquise. Il y a des moments, il y a des pièges que tu verras pas forcément. Et certaines zones, ça vaut vraiment le coup de sonder devant soi. Donc un petit bâton pour pouvoir sonder. Ce qu'on craint essentiellement, c'est qu'il y ait quelqu'un qui tombe à l'eau. Donc pour ça, on va aussi embarquer des crampons pour pouvoir mettre au pied et une corde à envoyer. Ce qui a évité absolument, c'est un suraccident, quelque chose qui n'était pas grand-chose au départ. Et hop, 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 c'est l'escalade, ça se précipite. Se poser, bien avoir les crampons au pied, calmer la personne et puis la guider pour qu'elle puisse sortir de façon verticale, sans paniquer, etc. Et en lui lançant une corde flottante pour pouvoir l'assister. Donc ça, à partir d'un certain périmètre, effectivement, les sorties vont être soumises à l'autorisation du chef de district en hiver.
On va dans le dur un peu.
On y va.
Là, vous allez au rocher du débarquement, c'est le rocher où sont arrivés les premiers explorateurs.
Oui, c'est bien ça, oui. Oui. C'est le premier rocher qu'on a rencontré avec l'astrolabe quand on est arrivé.
Vous y allez en hélico? Vous y allez en bateau?
En petite embarcation.
Ah, en petite embarcation, d'accord.
Retour à l'astrolabe où l'on retrouve le commandant François Tristram. Le futur chef de district et ancien marin, Alain Quivoron, prend les commandes d'un Zodiac pour faire quelques dizaines de minutes de navigation sur une mer d'huile, sous un ciel bleu électrique et devant des icebergs d'un blanc éclatant, sur les traces de l'autre astrolabe, le tout premier, dans les pas de Jules Dumont-d'Urville.
Bien, on arrive donc au niveau du rocher du débarquement. Et on va en faire le tour.
Donc là, il faut imaginer la chaloupe de l'Astrolabe. Souquet ferme, matelot. À la rame. Ils sont arrivés ici.
Bon, alors, voyons
en 1840. Voir. C'était le 11 janvier, c'est ça, Patrice? Non, le 20 janvier. Le 20 janvier 1840.
On l'avait dit ici quelque part, non?
Ils ont dû aborder quasiment au même endroit que nous, parce qu'il n'y a pas 100 000, pas 100 000 positions.
Ouais, ça devrait être pas mal, là.
Tu peux planter ça là-haut, un peu plus haut.
On va s'en servir de main courante déjà.
Il avant là.
Qu'est-ce que vous essayez de faire, François, là?
J'essaye de faire un... comment dire, un amarrage de fortune pour éviter que le Zodiac ne parte. On se retrouve à rentrer à la nage.
Et en quoi ça consiste, cet amarrage de fortune?
Donc là, j'ai pris une rame de l'embarcation. Je la plante dans la neige. Voilà, du côté de la pelle. Ce qui fait qu'il y a une résistance. Normalement, là, ça devrait être bon. Je passe un bout autour. Un tour mort, deux demi-clés.
Et en vrai, on a terminé avec le prix.
Voilà.
Donc, je suis là pour rentrer.
Amarré.
On est amarré.
Et l'astrolabe était loin de ce rocher?
Je pense que l'astrolabe, il devait être à quelques encablures. Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas trop s'approcher. Ils avaient peur des hauts fonds. Ils avaient peur de talonner. Et donc, ils ont dû rester à peut-être 200 mètres. Et envoyer la baleinière pour venir jusqu'ici. Planter le pavillon français.
C'est assez émouvant.
Ouais, c'est émouvant d'être là ici, après tout ce qu'on a pu lire. C'est vrai que nous, l'astrolabe, on est les successeurs de cet astrolabe-là, donc ouais, c'est émouvant. On s'en met à une petite photo. On va immortaliser l'instant.
Bon, Alain, racontez-moi un peu ce que ça vous fait d'être ici, c'est quand même assez exceptionnel.
Ah, c'est effectivement, c'est quelque chose que j'aurais pas imaginé il y a encore ne serait-ce que quelques jours. Ah oui, c'est effectivement assez magique. Du blanc, du bleu. Oui, formidable.
Comme quoi, venir en Antarctique, c'est encore être sur la trace des anciens explorateurs.
Ah oui, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui se poursuit.
Je marche dans les pas du commandant François Tristram, qui a ouvert la voie, ouais. Qui s'est un peu enfoncé.
Et les traces de ski, Amundsen a dû passer avant nous. Non, ça. C'est les Manchois d'Eli, ils sont hyper curieux, on les voit là. Ils viennent nous regarder. C'est beau, hein, y a pas de vent. Grand soleil. C'est magnifique.
C'est sidérant, c'est-à-dire que c'est compliqué parce que comme ça laisse sans voix quand on fait de la radio, c'est un peu compliqué d'être sans voix à la radio.
Ouais, mais dans des paysages comme ça, on peut que se taire et admirer, hein, finalement.
La plaque est là.
Ah oui, la plaque est juste là. Là voilà, il faut que vous me la lisiez. Comment...
Alors, je lis la plaque du rocher du débarquement. Parti à la recherche du pôle sud magnétique, l'amiral Jules Dumont-Durville... avec les équipages de l'Astrolabe et de la Zélée, découvrit cette partie du continent antarctique le 20 janvier 1840. Le lendemain, il débarqua sur ce rocher pour prendre possession, au nom de la France, de ce territoire qu'il nomma Terra Deli, en hommage à son épouse Adèle.
On dit Dumont-Durville pour sourire, c'est ça? Allez, 1, 2, 3.
Donc là, on va rendre hommage. Donc on va rendre hommage à nos ancêtres, nos prédécesseurs plutôt, de 1840, qui sont venus sur ce rocher pour célébrer la prise de possession. Ils ont débouché une bouteille de Bordeaux. Voilà, on a un petit Bordeaux Mouton Cadet 2013. On va ouvrir en leur mémoire. Je crois qu'ils avaient laissé une bouteille aussi, non? Ils n'avaient pas laissé une bouteille avec un mot à l'intérieur. C'est peut-être cette bouteille-là qui a servi à laisser le mot. On peut l'imaginer. Hein. Voilà.
On peut la refaire?
On pourra celle-là. Alors.
La question que je me posais, c'est comment est-ce qu'on peut être absolument sûr qu'il s'agit bien de ce rocher-là? Parce que comme il y a plein de petits esquifs qui sont à peu près similaires partout autour, est-ce qu'on a des traces cartographiques précises, des relevés qui permettent d'être sûr, ou est-ce que c'est un peu un lieu symbolique?
Non, je crois que c'est assez... bien définie, puisque quand Dumont d'Urville est venu, il a fait un levé hydrographique. Il a fait une carte, en fait, de toute la zone. Et c'est lui qui a donné les noms à différents îlots. Donc on a une position assez précise, même s'ils n'avaient pas de GPS. On a quand même un relevé des îles les unes par rapport aux autres. Donc on sait que celle-là, c'est, de toute façon, c'est celle qui est le plus au large. C'est la première sur laquelle on tombe quand on vient du large. Donc je pense qu'il n'y a aucun doute.
Et puis il y a des tableaux aussi qui montrent, on connaît un peu la forme du rocher, je ne sais pas si c'est vu à Hobart. Ouais, et des extraits du livre des voyages du Mont d'Urville. On a des vues avec l'astrolabe et la zélée. Ouais. Et la forme elle est quand même très similaire. Quoi.
Sur le continent pour aller sonder la banquise et l'épaisseur de la glace de mer avec Hélène Larmet et Alain Quivaud.
Allez, go!
On va vous faire un petit peu. On est toujours sur Pétrel. Le hangar bleu, tu te souviens le truc avec tous les engins là?
Oui.
Le hangar fusée, qui sert surtout à stocker du matériel mais qui a cette formidable histoire de partenariat avec le hall fusée.
C'est quoi cette histoire, Hélène?
Froide. C'était un partenariat avec l'Union soviétique en plein milieu de la guerre froide, comme quoi la science quelquefois est un petit peu plus maline et arrive effectivement à établir des partenariats malgré les relations diplomatiques ou un peu plus compliquées. Et il y a eu des lancements de fusées donc en direction de la ionosphère pour aller voir un petit peu des choses dans la ionosphère. Et donc ces opérations-là, elles se sont déroulées à Dumont d'Urville et à Kerguelen. Et donc il y avait une rampe de lancement, il y a une photo qui est vraiment rigolote, t'as l'impression d'être à Cayenne, à Kourou, où tu vois une fusée décoller d'ici, c'est énorme. Donc là on est toujours sur Pétrel, et les îles qu'on voit en face de nous sont les îles de la zone spécialement protégée pour l'Antarctique, la 120, la ZSPA. Donc ça signifie qu'ici, malgré les apparences, on va sortir de Pétrel. Et on sera sur la glace de mer, sur la banquise. Cette partie-là n'a pas débâclé depuis des années, et donc... on peut s'attendre effectivement à ce qu'elle soit particulièrement épaisse et solide. Auparavant, les équipes de l'IPEV pouvaient faire venir l'Astrolabe jusqu'ici. Et donc, sous terre, on voit qu'il y a les stockages d'hydrocarbures là-bas et venir remplir directement ces stockages-là. C'est quelque chose qui est inimaginable aujourd'hui, en 2018. On n'arrive pas à se l'imaginer, ouais.
J'entends que le téléphone bip, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de réseau. J'appelle Cédric. D'accord. Je lui dis qu'on va jusqu'où ?
Et qu'on est au pré et qu'on va vers le Mayono.
La radio ou la radio, d'Alain ?
La radio, j'écoute.
Oui, Dalin, donc avec Hélène et Nicolas, on va faire des sondages glace. On est actuellement au pré. On va aller vers le Mariono et puis on va circuler un petit peu entre les îles.
Ok, bien pris.
Donc on voit bien la limite de l'île, puisque toute cette zone-là, elle est en compression.
Qu'est-ce que tu appelles la compression ?
Toute cette zone où tu vois qu'il y a des mouvements qui vont créer des fissures par endroit et à l'inverse des petites montagnes de neige à d'autres. Oui. En fonction des conditions, tu pourras même avoir des rivières qui se forment. Donc ça, c'est lié directement au mouvement de marée, au mouvement de houle qui vont venir pousser tout ça. Du coup, tu vas avoir, au moment de la formation de ta glace en début d'hiver, des zones de glace mince qui peuvent se reconnaître éventuellement un peu à la couleur, mais c'est pas un indicateur qui est fiable à 100%. Donc prudence absolue à l'abord des îles. Tu trouveras dans les rapports d'incidents, un en particulier à la baleine, là. C'était il y a 10 ans, d'une zone effectivement qui était bien connue, pas de souci. Et le gars est tombé, je crois, de 2-3 mètres ou quelque chose comme ça, à travers un piège comme ça en bord d'île. Bord d'île, danger.
Mais c'est vrai que ça peut être profond, hein, la fissure. Là, on voit déjà, il y a près d'un mètre.
Là, oui, la fissure fait un mètre et t'as encore une bonne épaisseur, je pense, ouais. Dessous. Un petit peu de neige, ça c'est recouvert, tu mets ton pied, tu perds une cheville okay. Bêtement.
Ouais. Oui. C'est quoi les différences de coloration ? C'est vrai qu'on a de la glace bien bleue comme ça, par endroit.
Ouais.
Ouais, effectivement. Alors, c'était aussi un des trajets. Les véhicules passaient par ici quand on a fait les transferts jusqu'à Prud'homme, qu'on avait encore la route. Donc, la couleur en surface, ça peut être tout bêtement, effectivement, parce que ça a été compressé. Et sinon, ce qu'on voit sur base, qui ressemble à des patinoires par moment, ça melte, ça fond en surface, et puis ça regèle la nuit, et ça donne ça. Ouais. Petit piège. Tu t'en lasseras pas, hein.
Ah non, moi, ils me font mourir de rire. Il y a un nouveau manchot à Delhi qui s'est approché pour venir le voir, qui est tout luisant encore, parce qu'à mon avis, il doit sortir de la mer. Hein. Ah, et oui, tout brillant.
S'il est propre comme ça, effectivement, c'est qu'il vient de sortir de l'eau.
Qui vient nous voir, mais qui fait comme si quand même on l'intéressait pas trop, mais qui quand même vient nous voir.
Il est gras, ouais. Il vient de manger. Ouais.
En soi,
tu sais pas jusqu'où ça. Regarde, t'as vu, t'as posé ton pied et ça s'est affaissé. Donc autant il y a pas de, autant il y a un creux dessous. D'ailleurs, il y a un creux dessous. Ce petit bouton là qui va venir te faire choisir si tu veux faire des trous, par défaut il est là dessus
ouais.
Ou si tu veux utiliser en perco qui...
Oui, mode béton.
Ouais. Donc tu te mets bien sûr cette position là
ouais.
Il y a ce petit bouton sur le côté qui va te dire dans quel sens tu vas aller ta mèche
ouais.
Donc toi tu veux qu'elle aille vers le bas, donc tu la pousses comme ça et c'est parti. Donc, comme tu disais, l'intérêt, c'est non seulement d'avoir l'épaisseur de la glace, savoir, mais également, effectivement, de regarder ce qui en sort et de voir quelle est sa consistance et si elle est dure, si elle est mouillée. Donc là, elle est vraiment sèche et homogène. C'est pas de la glace, mais c'est de la neige sèche.
Là, on a...
Ouais. T'as une mèche de 1 mètre et une mèche de 50 cm. Donc là, tu sais que t'as effectivement plus de 150 de neige sèche.
On n'a pas besoin d'aller au-delà.
Non.
1m50, ça supporte, je n'ai pas les abacs sous les yeux, mais ça supporte les engins, ça supporte tout là.
Complètement.
D'accord.
De pouvoir aller jusqu'à 30 tonnes, je crois, de mémoire. Alors peut-être pas avec ces chaleurs-là, remarque, ouais, ça donne quand même un ordre d'idée.
Bon, donc, ok, on ne mesure pas, on sait qu'on a notre 1m50, et par contre, on rentre les points dans le GPS maintenant.
Voilà.
Voilà, donc c'est le point 163, il a pris le FI et le G, je fais terminer.
Je fais terminer.
Demain, la tempête de neige approche et les hommes du RAID arrivent après avoir traversé le continent antarctique en camion chasse-neige. Un été en Antarctique, un reportage de Nicolas Martin, réalisé par Yvon Croisier, avec Laurent Père, Hélène Larmet, Raphaël Masson, Alain Quivoron, François Tristram, Patrice Bretel. À suivre.